Nicolas Bourgoin, vous êtes réalisatrice et réalisateur de documentaires. Marié, parent de 4 enfants, vous signez tous deux Chaîne de vie, l'amour au temps du cancer. Film dans lequel vous livrez les douleurs, les affres, les petites joies de Nicolas, atteint d'une carcinose péritonéale de stade 4, mais aussi le rôle difficile que Céline doit endosser. Pour comprendre les répercussions de la maladie sur votre couple, vous avez le profil idéal. Le 28 avril 2022, Nicolas, vous souffrez de maux de ventre et vous vous rendez aux urgences. Je pensais avoir trop abusé de la poule en chocolat, de l'agneau de 7 heures et des magnums de Saint-Joseph. Un chirurgien vous annonce qu'il doit opérer. Céline est prévenue par téléphone.
Bah, il m'a dit Madame Bourgoin, les nouvelles sont pas bonnes. La tumeur, c'est bien un cancer et puis elle est très très grosse, la tumeur. Et puis il y a des métastases partout sur le péritoine.
Sur Facebook, Nicolas, depuis le début de votre parcours médical, vous tenez un journal intitulé « Chaîne de vie » en hommage aux vieux chênes qui se trouvent en face de chez vous en Normandie. Le 28 mai 2022, vous relatez que votre fils vous dit « Ben papa, depuis que t'as ton cancer, t'es quand même vachement moins marrant ». Séance de chimiothérapie, nouvelle opération le 21 septembre, le lendemain de vos 50 ans, un long protocole de soins qui dure 9 mois.
Moi, je récupère le malade à la sortie d'une opération, mais il y a encore tous les soins, toutes les souffrances derrière. Moi, je me souviens d'une extrême fatigue.
Après cette épreuve, vous traversez tous deux une période dépressive. En avril 2023, Nicolas, vous reprenez votre travail, mais le 6 septembre 2023, vous postez. J'avais pensé à quelques vannes, mais pas celle-ci. Suspicion de récidive, voilà ce qui est écrit en conclusion du scanner. 7 séances de chimio, encore une opération, et si parfois vous réussissez à rester philosophe, le couple n'en est pas moins secoué.
Est-ce qu'il ne faut pas profiter de chaque instant?
Bien sûr. Mais peut-être que c'est plus facile pour la personne qui est malade que pour l'entourage, justement, ça.
Moi, je vais bien donner ma place.
En rémission, vous passez le plus bel été du monde en 2024, mais en octobre, l'oncologue vous apprend qu'il n'a jamais vu une récidive aussi rapide. Sur Facebook, ironique, vous lui répondez « T'inquiète, mon gars, t'es encore jeune. Tu ne resteras pas sur un échec. Tu vas rebondir. »
Non mais le couple n'est pas philosophe, le couple est inouï. D'humour, d'ironie, d'autodérision, de complicité, de tendresse, enfin c'est absolument phénoménal. Comment devient-on aidante quand on ne voulait être que amante, aimante, et qu'on se retrouve à se coltiner un olibrius pareil, qui vous dit ce qu'il vous dit, et ce qu'on voit dans ce documentaire.
On ne devient pas, en fait, on apprend sur le tas, ça, on n'a pas de formation d'aidante, en fait, ça n'existe pas. Donc malheureusement, du jour au lendemain, on se retrouve dans cette situation, on est à la fois dans une souffrance psychologique, parce que c'est dur quand même de savoir que son chéri est très très malade, atteint d'une maladie très grave, on ne sait pas s'il va s'en sortir, en fait, donc on a peur de le perdre. Et en même temps, on porte un fardeau, parce qu'il faut s'occuper de tout, en fait, il faut tout gérer. Lui, il est fragilisé par les traitements, par ses séjours à l'hôpital, il y en a eu 4 hein, quand même depuis le début de la maladie, et vous devez tout gérer, tout assurer, porter la famille, porter financièrement aussi, parce que quand on est réalisateur intermittent, on ne peut plus tourner, on ne peut plus partir en tournage.
De la même manière.
Donc, moi, il a fallu que je continue à tourner alors qu'il était à l'hôpital, enfin, tout ça, ça demande une gestion assez compliquée, et on n'est pas formé à ça, et donc on apprend tout seul, on lit. Alors j'ai lu pas mal de livres qui m'ont aidé, et puis surtout j'ai vu une psy qui m'a beaucoup aidé aussi. Et ça, c'est le conseil que je peux donner aux aidants, c'est qu'il faut prendre soin de soi et surtout faire attention à, voilà, ça, comment dire, il faut aller bien en fait, pour pouvoir aider les autres, il faut aller bien soi-même, donc il faut faire du sport, il faut voir ses copines, etc.
Il faut beaucoup se parler, Nicolas Bourgoin, c'est ce qu'on voit aussi dans le doc, sans cesse communiquer, ne pas oublier de dire ce qu'on ressent et d'écouter ce que l'autre ressent, c'est ce que vous montrez.
Oui. Alors, c'est pas toujours facile de se parler, parce que parler de la maladie au quotidien, enfin, il faut pas que la maladie non plus occupe toute la place dans la vie. Ça, c'est assez difficile, parce que moi, objectivement, je pense à ça 24 heures sur 24. Et donc, il ne faut pas que j'en parle 24 heures sur 24.
Mais... Et vous y pensez, pardon de vous couper, mais vous y pensez et vous en parlez, à la fois comme un enfant, comme un philosophe, parfois vous êtes comme un stoïcien, parfois comme un épicurien. Vous dites, lutter pour la vie et pour ma vie, ça m'exalte. Et la réponse, c'est, ça me fatigue. Il y a à la fois une incompréhension mutuelle par moment, et en même temps vous vous rencontrez, c'est ça qui est très bouleversant. C'est toujours le dialogue.
Oui.
Le dialogue et la dynamique du dialogue, c'est ça qui vous sauve.
Ah oui, oui, ça c'est sûr que ça nous a sauvés et ça nous a évité bien souvent des ruptures, parce que voilà, on arrive.
Parce que vous les avez frôlés.
Oui, on les frôle, ouais, quand la maladie s'invite.
On a divorcé 15 fois, on s'est remarié 16 fois. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux points de vue différents et deux vécus très différents. tout en étant ensemble et en vivant ensemble, sous le même toit. C'est-à-dire que lui, il est avec sa maladie, sa souffrance, sa peur de la mort.
Sa culpabilité, etc. par moment.
Sa culpabilité aussi, tout à fait. Et moi, je suis avec mon fardeau, le fait de devoir porter tout ça et de ne pas le montrer et d'être inquiète quand même. Donc, c'est deux vécus très différents et on doit partager tout ça, malgré tout, et continuer à avancer ensemble. Donc, ça nous sépare. Et ça nous rapproche aussi quand on arrive à se dire ce que je viens de vous dire et de comprendre que finalement, c'est deux perceptions différentes des choses, mais qu'on vit la même chose et qu'il faut qu'on avance ensemble. Et puis aussi la question de l'amour qui est très importante. Enfin, je veux dire, si je ne l'aimais pas, j'aurais pas fait tout ça pour lui. C'est tout simple. Et je pense que c'est aussi un facteur de guérison, l'amour.
Et vous montrez sans phare aussi, parce qu'à un moment donné, il y a l'annonce de la récidive, Céline Desceppe, et vous dites, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le coup.
Oui, c'est vrai, parce que c'est une affection de longue durée, on appelle ça comme ça, le cancer. Donc ça dure très très longtemps, ce n'est pas une petite grippe qui dure deux semaines, où là on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Et puis là, on est obligé quand même d'accompagner l'autre sur un très très long terme. Donc c'est une forme de marathon qui peut être très épuisant, psychologiquement et même physiquement, c'est-à-dire que vous portez physiquement les choses.
Et alors pour l'accompagnement, il y a des structures qui commencent petit à petit à se mettre en place. Vous avez évoqué, Anna, une structure à l'Institut Gustave Roussy, c'est ça?
Oui, dans le Val-de-Marne, leur ambition c'est d'améliorer la qualité de vie des patients qui sont atteints de cancer, mais aussi de leur entourage. Donc c'est un nouveau centre, il s'appelle MyCare. Il a ouvert en septembre au sein de l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre d'oncologie en Europe. 2000 patients peuvent donc y être pris en charge chaque année, ils bénéficient gratuitement d'un programme sur mesure avec des soins de support qui sont les plus adaptés à leur situation. Ça peut être du sport, de la méditation, une psychothérapie par exemple, mais aussi des séances pour mieux gérer la douleur ou même de la formation sur la santé sexuelle. Mais en aucun cas, précise le professeur responsable du centre, il ne s'agit de papouillothérapie. Des études scientifiques sont régulièrement menées pour prouver l'efficacité ou non de ces soins. Alors on le voit dans le documentaire, Céline, à un moment donné, vous parlez vous avez poussé Nicolas en fait à aller chercher de l'aide à l'extérieur pour que tout ne repose pas uniquement sur vous. Est-ce que vous pensez que ce type de structure, eh bien, ça peut le soulager lui et puis soulager aussi les proches aidants comme vous?
Bien sûr, bah nous on prend tout, hein, c'est ce que je disais. On prend à la fois la médecine, hein, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même la médecine, et les traitements qu'il reçoit sont assez efficaces. Et puis après, c'est tout l'accompagnement psychologique qu'il peut y avoir autour, même de la médecine douce, on a mis en place plein de choses, et puis aussi les copines, les copains, enfin voilà. C'est tout ça, cette chaleur qui va nous accompagner dans ça.
Comment vous allez, Nicolas Bourgoin?
Très bien. Alors je suis toujours en... J'ai eu une énième récidive.
Oui. Le film l'annonce, le documentaire l'annonce à la toute fin. Et vous êtes allongé sous le chêne. Et...
Exactement. Donc je suis encore, j'ai encore la maladie, hein, moi, quelque part.
Oui.
Mais je suis là, je marche, je mange, je vous parle, je vous entends. Et donc j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont très bien en moi. Voilà, il y a un cancer quelque part, je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Bon, je lui laisse une petite place, mais tout le reste va très bien en fait. Donc en fait, je vais très bien. Mm-hmm. Deux jours par, tous les 15 jours, j'ai de la chimiothérapie. Ça me donne à peu près envie de mourir pendant 48 heures, et puis après j'ai très très envie de vivre. Donc ça va plutôt très bien.
Et comment s'est comporté le personnel médical? Parfois un peu maladroitement, ou dans l'annonce
début,
notamment?
Oui. Au début, oui, l'annonce, ouais, là c'était très difficile. C'était pas à Paris, c'est pas les gens qui me suivent.
C'était au téléphone.
Mmh.
C'était à vous, au téléphone.
Mmh. Voilà. Et souvent c'est les aidants qui reçoivent en fait les mauvaises nouvelles. Ça, on s'en rend pas compte, mais c'est à nous qu'on annonce les choses très brutalement, parce qu'on se dit, bon, bah oui, ils sont pas malades, ils peuvent entendre les choses.
Ils peuvent encaisser.
Mmh. Et donc, c'est à moi qu'on a annoncé la très mauvaise nouvelle, d'autant plus qu'elle était mauvaise, d'autant plus qu'il n'y avait pas de symptômes, de signes avant-coureurs de la maladie. Donc, ça nous est tombé dessus du jour au lendemain. Et je me souviens d'un chirurgien qui m'a dit, bon, écoutez, madame, ce qu'il a, c'est une saloperie. Rien que ce mot-là me reste, vous voyez, je m'en souviens très bien. C'est quelque chose qui est presque un trauma pour moi d'avoir entendu ça. Et lorsque j'ai demandé si mon mari allait s'en sortir, il m'a répondu « Mais madame, je ne suis pas Dieu. » Voilà. Donc, et bon courage. Et il a raccroché.
Après avoir dit aussi « C'est pas beau, c'est pas beau,
ouais, ce oui, c'est ça. » C'est très, très bien.
Ça, c'est aujourd'hui, le personnel qui me, enfin, les professeurs qui me suivent sont absolument exemplaires, tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue humain. Enfin, ça, je dois vraiment leur rendre hommage parce que c'est des gens à qui je dois beaucoup.
Oui. Est-ce que vous... Alors, on sait qu'il y a 5 millions de personnes invisibilisées qui sont les 5 millions d'aidants, puisqu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont un cancer en France. Est-ce que vous, avec cette force de vie, cette pulsion de vie que vous expliquez d'ailleurs dans le documentaire, est-ce que vous vous envisagez, au-delà de chaînes de vie, donc de ces échanges que vous avez sur le net, peut-être devenir non pas aidant, mais transmettre cette manière que vous avez d'envisager la maladie et ce qu'elle a apporté en plus à votre existence, à votre esprit, à votre couple, à votre famille?
Oui, oui, moi je pense, enfin, j'aimerais bien que le film soit, serve, ce qu'on dit les médecins, c'est-à-dire que ça peut être utile parce qu'on dit des choses, voilà, on n'a pas fait forcément exprès, mais voilà, on dit des choses qui peuvent voilà, être utiles aux autres. Et si ce film peut aider d'autres personnes, moi je serais le premier à l'accompagner, évidemment. C'est important.
Ce film s'appelle Chaîne de vie, l'amour au temps du cancer, y compris la vie intime. On va pas vous demander comment va votre vie intime à tous les deux. On n'irait pas jusqu'à là, même si on s'interroge. Merci.
Merci beaucoup.
Nicolas Bourgoin, merci. Céline Estève et le film. Donc votre documentaire sera diffusé sur la chaîne parlementaire mercredi soir. Je rappelle que demain est la journée mondiale contre le cancer. On va passer à